Les éditions de l'Avenir présentent Agent de l'OMU, une aventure de Mazas Pavel, roman fanique d'André Bory, paru à l'origine dans la Gazette de Terrania et Basis hors série numéro 4. K00 dans le rôle de Mazas Pavel, Christophe dans le rôle de Steve Omir Hirsing et Christian Martin la narration. Chapitre 3, troisième partie. L'étanchéité de la coque était parfaite, les moteurs répondaient à la moindre sollicitation et la batterie de test de fiabilité des instruments suivait son cours normal. De temps à autre, l'intercom donnait des nouvelles des trois modernes Nemrod, ce qui rendait un peu de sa sérénité à Mazas. Elle savait qu'ils avaient abattu une espèce d'antilope qui, comme ses congénères terrestres, possédait deux gigots qui seraient sans doute excellents à la broche. Steve s'étira longuement pour décontracter ses muscles dorsaux endoloris et soupira.
« Je ne suis pas mécontent que nos essais soient terminés. Nous avons fait du bon travail. La seule chose qui m'embête, c'est que nous n'ayons pas réussi à régler parfaitement les calypses et qu'il faudra donc rentrer à la maison en plusieurs étapes. Sinon, nous courons le risque de les voir voler en éclats et dans ce cas, à un peu moins que la vitesse luminique, il nous faudra au moins deux existences pour rallier Arconis. »
Tu as raison, et j'étais, malheureusement, arrivé à la même conclusion.
Approuva Mazas en effectuant quelques mouvements d'assouplissement.
Dans quelques minutes, on remet le cap sur Osilax et dans moins d'une heure, on est installé devant un cuisseau d'antilope osilaxienne cuit à point.
La réflexion du pilote provoqua une véritable décharge électrique dans le corps de la jeune femme qui se leva d'un bond et se précipita sur l'intercom.
« Bon Dieu ! Cela fait une éternité qu'ils ne m'ont pas appelé. » !»«
Mais c'est vrai, ça ! Avec tous les essais qu'on vient d'effectuer, je les avais complètement oubliés. »
Mazas lança un appel qui n'apporta aucune réponse. Elle récidiva à plusieurs reprises d'une voix de plus en plus angoissée. Mais le récepteur resta désespérément muet.
« Il leur est arrivé quelque chose. »«
Leur minicom est peut-être en panne. »
suggéra Steve d'un ton peu convaincu.
« Ridicule. Ils ont chacun le leur. »
Mais déjà, le pilote s'était laissé tomber sur son siège contour et ses doigts volaient sur les touches de programmation. Le petit vaisseau se cabra et entama son retour vers la planète moribonde. Pendant tout le trajet de retour, Mazas poursuivit ses appels, mais toujours en vain.
« Tu vois, j'avais raison de ne pas être séduite par leurs idées de chasse. Je me demande bien ce qui a pu leur arriver. »
« Sans doute rien de grave. Je suis sûr qu'il y a une bonne raison à leur silence. Et que lorsque nous la connaîtrons, nous rirons de notre inquiétude actuelle. »«
Alors, tu avoues donc que tu es aussi inquiet que moi ?»
Steve se contenta d'un grognement en réponse à sa question. Quelques minutes plus tard, le petit vaisseau se posait à proximité du campement. Et il fallut bien se rendre à l'évidence. Les trois compagnons n'étaient pas là.
« J'ai peur que nous attendions un moment notre cuisseau d'antilope. »
marmonna le jeune homme en constatant leur absence. Mazas, qui avait eu largement le temps de reprendre son sang-froid pendant la descente vertigineuse du vaisseau, entra à l'enregistrement des conversations avec Goral dans le cerveau électronique afin de déterminer les différents emplacements d'où elles avaient été émises.
« Leur dernier message provient d'ici. »
signala-t-elle à Steve en lui désignant un point précis de la forêt qui apparaissait sur la carte panoramique de l'écran.
« Très bien. Le temps de nous équiper et d'activer les défenses automatiques du vaisseau et on peut y aller. »
Dix minutes plus tard, engoncés dans leur combinaison de combat, les propulseurs dorsaux anti-G les maintenant à 5 ou 6 mètres du sol, ils prirent la direction de la forêt. Il leur fallut peu de temps pour atteindre l'endroit où se trouvaient les chasseurs lors de leur dernier contact phonique. Contrairement à la région en général, la végétation n'y était pas très dense et laissait apercevoir des surfaces herbeuses que sillonnaient des sentes dues vraisemblablement au passage des animaux. Mais pas la moindre trace des trois hommes.
« Nous allons effectuer des cercles de plus en plus larges. en partant de ce point comme centre. S'ils n'ont pas disparu sous terre, nous devrions immanquablement les retrouver.
Puisses-tu dire vrai ?
S'exclama Steve, dont l'optimisme primitif commençait sérieusement à être atteint. Très inquiète sur le sort de leurs compagnons, et se sentant coupable de leur disparition, dans la mesure où elle n'aurait jamais dû leur donner son accord pour cette partie de chasse, Maza s'entama une spirale dans les airs, tout en essayant, en pure perte, d'obtenir un contact phonique. Alternant les appels, ils effectuèrent des cercles de plus en plus larges autour du point central qu'ils s'étaient choisi. Régulièrement, ils traversaient des frondaisons et rejoignaient le sous-bois, mais celui-ci se révélait bien sombre, les obligeant à utiliser la lampe frontale du casque de leur combinaison de combat. De temps à autre, dans leur progression, ils dérangeaient les animaux, pour la plupart de petite taille, et semblables à de gros lièvres cornus, qui se lançaient dans une fuite éperdue, troublés par ces lumières qui les changeaient du clair-obscur habituel de leur habitat. Soudain, Steve appela.
Mazas, viens me rejoindre. Je crois que j'ai quelque chose.
Moins de 2 minutes plus tard, elle le rejoignait et s'agenouillait à son tour à ses côtés.
Tu vois, l'herbe est écrasée et on voit 3 traces parallèles. Un peu comme si quelque chose ou quelqu'un avait été traîné par terre.
Tu as raison. Mais on ne voit aucune trace de lutte ou de sang.
C'est vrai. Mais pour l'instant, c'est notre premier indice.
Essayons de voir si nous pouvons suivre ces traces.
Pendant quelques centaines de mètres, le triple sillon fut visible, mais il disparut quand l'herbe fit place à l'entrelacs de racines et de caillasses.
C'est quand même un comble. Tout le terrain où nous avons posé le vaisseau est constitué d'une épaisseur de sable de 15 cm, et ici, dans cette foutue forêt, il y a de la roche et des cailloux. Bien malin celui qui pourrait dire où continue notre piste.
Comme nous n'en savons rien, on va continuer dans la même direction. Ce terrain rocailleux ne va pas durer, et logiquement, nous devrions retrouver nos traces.
Bloquant son compas dans le sens indiqué, Mazas reprit son vol. À 1 mètre du sol, les yeux rivés sur le terrain qui défilait sous son ventre. La partie sablonneuse fit son apparition à la sortie de la forêt, mais aucune trace n'apparut sur la surface vierge à son grand dame.
Pas la moindre empreinte sur ce sable fin. Je me demande vraiment où ils sont passés. Plus le temps passe, et plus nos chances de les récupérer en bonne santé s'amenuisent.
D'autant plus qu'il commence à faire nuit et qu'il va falloir abandonner nos recherches jusqu'à demain matin.
Cela, c'est hors de question. D'ailleurs, sous les arbres, nous sommes obligés de nous servir de nos lampes, même en plein jour. Donc, nous continuerons avec nos projecteurs individuels qui devraient nous donner un éclairage plus puissant.
Steve, l'air sceptique, approuva cependant la décision de la jeune femme. 2 heures durant, ils s'évertuèrent à retrouver des traces qui devaient, du moins l'espéraient-ils, les conduire à leurs amis. En vain. Mazas dut se rendre à l'évidence. Cette nuit, il ne pourrait rien faire de plus. La mort dans l'âme, ils regagnèrent le cœur de Faux-Malo pour y prendre quelques repos et attendre l'aube afin de reprendre les recherches.